Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine d'échange citoyen Parole aux auditeurs. Joseph Olengakoy, coordonnateur du rassemblement El Kassavubu, a été désigné samedi 21 juillet président du Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre. Certains observateurs estiment que cette désignation est un pas dans l'avancement du processus électoral selon l'accord du 31 décembre dernier. Une autre opinion pense plutôt qu'elle ne résout pas le problème de la crise politique et ne pourra pas faciliter la tenue des élections conformément à l'accord du 31 décembre. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-6315 et 09-97-06-4969 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Sylvain Matundu est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Marcel Ngombo Mbala Keba. Pierrot et la Mégie a le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Martin Seboujangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Prévu par l'accord du 31 décembre dernier au chapitre 6, les points 2 et 3, les attributions, les parties prenantes s'accordent que le Conseil national de suivi de l'accord aura pour mission d'éveiller au respect de l'accord politique par tous les animateurs des institutions et d'assurer les suivis ainsi que l'évaluation de sa mise en œuvre en vue de garantir l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées. À cet effet, il devra assurer les suivis du chronogramme des mises en œuvre de l'accord, réaliser des évaluations régulières une fois tous les deux mois avec la CENI et le gouvernement sur le processus électoral, communiquer régulièrement sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord, formuler des recommandations respectivement au Parlement, au gouvernement et à la CENI pour la bonne exécution de l'accord, assurer également le règlement d'éventuelles divergences nées de l'interprétation de l'accord entre les parties prenantes et concilier leurs points de vue à cet égard, se concerter avec le gouvernement et la CENI en vue d'harmoniser les vues quant à la réussite du processus électoral. Alors, le 21 juillet dernier, comme je le disais, le président du comité des sages du rassemblement El Kassavubu, Joseph Olengakoy, a été élevé au rang du président du Conseil national des suivis de l'accord. Certains observateurs estiment que cela vient de donner un coup de pouce pour l'avancement du processus électoral. D'autres estiment que la crise n'a pas été résolue avec cette nomination. Quel est votre point de vue? Beaucoup de réactions sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Joseph Chérubin Tchamala, qui est à Kananga, estime que la nomination n'aura aucun impact parce que cette question de consensus va toujours se poser. L'UNC, les MLC et les autres ne reconnaissent pas la désignation. Alors, comment voulez-vous parler du consensus dans ces conditions? On a eu le même problème avec la désignation du Premier ministre Bruno Tshibala. Et dans ces cas, ça sera difficile aujourd'hui de penser qu'on puisse arriver à résoudre la question et aller aux élections. Ben Kabeya, la désignation de Pierre Lumbi a été mise en cause, soi-disant qu'il fallait un consensus autour de la personnalité devant présider le CENSA. Alors, si Monsieur Joseph Olengakoy est le fruit d'un consensus, pourquoi les FRC, l'UNC de Vital Kamerhe et les autres qui avaient signé les arrangements particuliers protestent-ils? Patrick Kayembe, je pense plutôt que cette nomination enfonce encore un peu plus les pays dans la crise sociopolitique et économique. Il n'y a qu'à voir les contestations irrelatives, mais aussi les réactions de la classe politique, surtout l'opposition, le Rassemblement Limité, l'UNC, les FRC et le MLC. Il n'y a que la majorité présidentielle qui s'est réjouie. Comment pensez-vous que dans ces conditions, on puisse aller facilement aux élections? Serge Louoweré, compte tenu de l'évolution de la situation, il est bien apparent que beaucoup de gens ne veulent pas lasser ne veulent pas lâcher les pouvoirs. C'est pourquoi ils attirent toujours des solutions, des manipulations faciles et des contestations. Et dans ces conditions, ça sera difficile. Et en direct, nous avons professeur Ignace qui nous appelle des Colosie. Professeur, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot et merci pour l'invitation.
On vous écoute.
J'ai retenu au regard de l'accord du 31 décembre déjà trois conceptions qui en découlent. Hein. Et la première, il y a celle qui dit que l'accord n'est pas appliqué. La deuxième qui dit que l'accord est appliqué correctement. La troisième, qui estime qu'elle est appliquée, elle a été appliquée correctement en CDD jusqu'à la signature de l'accord particulier, de l'arrangement particulier, et les choses ont très mal tourné. Mais alors, je voudrais dire que M. Olenga Nkoy, dans sa nomination, c'est une suite logique. Je serais trop surpris qu'on ait pris quelqu'un comme Lundi et le maître avec Tshibala. Le Premier ministre, ce serait vraiment surprenant, ça n'allait même pas marcher. Ici donc, j'ai compris que M. Olenga Nkoy, c'était le deuxième élément de la paire dissidente du RASOP aux antipodes de Félix et Lundi. Comme vous l'aviez dit d'entrée des jeux, quand on regarde les contestations de leur nomination, le cas dans lequel ils sont nommés, cela présente déjà sujet à contestation, et là, ça implique le problème de confiance aussi bien en interne comme à l'extérieur, c'est qu'il ne va pas faciliter les choses dans leur marge de manœuvre qui est d'ores et déjà réduite. C'est que nous nous enfonçons davantage dans la situation de crise. Mais à mon humble avis, je pense qu'avec un peu de volonté politique, eu égard à la situation, si réellement on travaille pour le compte de la population, un peu de volonté politique de ce que j'appelle la minorité politique qui détient le pouvoir véritable, celle qui est à la commande de la chose, à part cela que nous voyons, excusez-moi les termes, comme des figurants, c'est que cette volonté politique peut arriver à faire que, moi je pense, à organiser les élections en décembre 2017. Il n'est pas tard, c'est possible, c'est faisable, déjà au Kassai, là on ne peut pas mettre le pied, on commence à mettre le pied, c'est faisable. Donc aujourd'hui on est dans une situation où, même si ces gens-là sont rejetés, ils doivent agir par action. Allô?
Oui, on vous écoute, professeur.
Oui, ils doivent agir beaucoup plus par action. Je ne sais pas, par un bâton magique, si la paire dissidente qui se trouve à la commande aujourd'hui peut arriver à organiser les élections. Et c'est de cette seule manière que ces gens peuvent se dédouaner. Dans le cas contraire, ils vont échouer parce que dès le départ, ils n'ont pas de moyens de marge de manœuvre, comme je le disais. Mais je sais qu'il y a une autre stratégie par rapport à cette crise. Le pouvoir peut faire que arrivé au 17, au mois de décembre, on puisse rejeter Olenga Nkoy et le Premier ministre pour maintenant tendre la main à l'opposition en voulant nommer Félix et Lundi pour les récupérer. Et là, c'est le piège dans lequel l'opposition devrait faire attention pour ne pas tomber.
Est-ce qu'en allant des nominations en nominations, des crises et des contestations, si on se rappelle bien ce que nous avons connu en 90 après le discours du maréchal le 24 avril 1990, avec toutes les crises qui ont suivi, sans oublier aussi la crise socio-économique, on s'est retrouvé dans une transition d'autant d'années. Pensez-vous aujourd'hui que le fait d'aller dans ces points de vue diamétralement opposés, des nominations à nomination, est-ce qu'on n'est pas en train de réécrire la même histoire? Est-ce que cela va-t-il profiter aujourd'hui même à la classe politique congolaise?
Non, malheureusement. Je crois que j'ai utilisé le terme piège. C'est que l'opposition qui a tenu correctement son conclave devrait utiliser les bons moyens, je sais sur le terme, le moyen efficace pour éviter de tomber dans la crise de septembre passé, pour qu'elle arrive à convaincre ou à faire une bonne pression sur la minorité détentrice du pouvoir véritable, afin que un peu de volonté politique, on puisse aller véritablement aux élections, parce que c'est faisable, avec bien sûr le concours des partenaires qui veulent que les élections aient lieu. Mais ici, il y a la responsabilité de la population elle-même qui est meurtrie aujourd'hui dans tous les sens. Ce qu'on venait de dire, l'histoire est en train de s'écrire, on est en train de répéter pratiquement ce qui est arrivé vers la fin du pouvoir de l'ancien régime. Voilà ce que je peux dire à Philippe.
Merci beaucoup, professeur Ignace. Vous êtes à Kolwezi. Nous retournons ici à Kinshasa. En attendant, nous disons à Alain Bolodua, président fédéral du parti Panader, avec qui on doit être aussi dans ces débats. Alain, vous avez souhaité intervenir, mais là, on a des petits soucis pour vous joindre sur la ligne téléphonique habituelle. Si vous pouvez nous communiquer et notre numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre, Alain, si vous pouvez nous communiquer et notre numéro par lequel on peut vous joindre, parce que là, on a des difficultés de pouvoir joindre Alain sur la ligne habituelle, Alain, parce que vous avez un point de vue contraire de ce que beaucoup d'internautes ont exprimé. Comme je le disais, on reste ici à Kinshasa avec vous, Adrien. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour, professeur Ignace.
Voilà, on vous écoute. Pourriez-vous diminuer le volume de votre poste récepteur, Adrien? On vous écoute.
Merci beaucoup, Pierrot. Je félicite déjà l'intervention du professeur Ignace. Je voudrais intervenir sur deux plans. D'abord, l'assise juridique, n'est-ce pas, du Conseil national de suivi, c'est l'article 222, alinéa 2, qui a estimé que les institutions d'appui à la démocratie devraient exister. Mais lorsque vous lisez, comme le professeur vient de dire, nous répétons l'histoire, donc nous revenons encore dans le contexte de la transition, parce que ce terme d'institution d'appui à la démocratie, c'était des institutions qui devraient préparer à un ordre constitutionnel normal qui devrait venir avec la promulgation de la constitution actuelle. Et si vous lisez l'article évoqué, l'article vous dit que une fois que le Parlement sera installé, toutes ces institutions dites d'appui à la démocratie devraient disparaître. Mais contrairement à la situation actuelle, sur le deuxième plan maintenant politique, face à l'incapacité de la CENI de convoquer, n'est-ce pas, l'électorat, conformément à l'article 73, il fallait qu'on se retrouve dans un dialogue. Et l'opposant qui a crédibilisé ce dialogue, c'est M. Vital Kamerhe de l'UNC. Et face au manque, n'est-ce pas, de ce consensus, et même au retrait de la CENCO, les acteurs politiques avaient estimé que le dialogue du 18 février n'était pas inclusif. Voilà pourquoi l'appel par le président de la République lors de son discours de novembre pour récupérer les autres partenaires qui étaient à l'extérieur, notamment la CENCO. Voilà pourquoi on s'est retrouvé encore au mois de décembre de la même année avec l'idée telle qu'il fallait élargir le consensus. Mais malheureusement, le résultat actuellement, c'est que au lieu d'atterrir encore plus d'acteurs, mais on vient encore de perdre. Vous avez l'UNC qui avait crédibilisé l'accord du 18 février, qui vient en fait de renoncer encore, n'est-ce pas, à ce CENSA. Vous avez la CENCO qui était facilitateur, qui vient aussi de dénoncer le caractère violent de cet accord. Vous avez encore la partie qui est le rassemblement, elle, limité, qui se retrouve à l'extérieur. Donc, au lieu d'avancer, je suis d'avis de ceux qui estiment que nous reculons. Tenez, Piro, lorsque les gens s'étaient retrouvés au niveau de la CENCO, c'était pour essayer de faire un contrepoids, parce que la CENI avait estimé qu'elle n'avait pas été financée convenablement. Voilà pourquoi l'idée était venue de violer intentionnellement la Constitution en proposant un Premier ministre qui devrait venir de l'opposition, parce que c'est contre la Constitution, et en antipode du pouvoir, il fallait créer une structure qui devait être dirigé par l'opposition qui était appelée CENSA. Et à l'époque, le consensus était autour de M. Étienne Tshisekedi. Comme l'avait dit déjà un internaute qui avait écrit, quand la question s'était posée au niveau du terme de l'accord qui stipulait qu'il fallait que ce soit le président du Conseil des sages et en la personne de M. Pierre Lumbi, nous avions vu les voix qui s'étaient levées qu'il fallait refuser, rejeter cet aspect-là et soumettre, n'est-ce pas, cette disposition au consensus. Alors on se pose la question maintenant, la nomination de M. Olenga Nkoy a respecté quel type de consensus? Parce que d'abord, c'est deux vice-présidents, mm-hmm. Donc les gens devraient venir directement après lui, dénoncent, je cite ici M. Vital Kamerhe ainsi que le MLC qui a rejeté ce poste. Donc nous sommes d'avis de ceux qui estiment que cette installation du CENSA ne peut rien résoudre comme problème, mais par contre va remettre le pays. Voilà pourquoi je profite de votre micro pour appeler que ce soit la classe politique de l'opposition, que ce soit la société civile, notamment la CENCO par la commission justice et paix, de revoir, parce qu'il se retrouve maintenant à l'écart. D'une part, la majorité a élargi son aile avec l'opposition débauchée, et de l'autre part, on a le rassemblement, elle, limité, avec la CENCO, qui se retrouve ne pas être respectée et concernée. Voilà pourquoi j'appelle à toutes les forces que je trouve à l'extérieur de reprendre les choses en main et de sauver ce pays, parce qu'à la lueur où vont les choses, le CENCO n'aura plus rien à faire.
Alors, Adrien, s'il vous plaît, mais quand on regarde aujourd'hui, est-ce qu'on avait besoin aujourd'hui, après les élections de 2006-2011, qu'on se retrouve encore à la case du départ? On dirait que nous sommes revenus à la période de 1+4, où on devait encore mettre en place les structures, les institutions pour pouvoir organiser les élections, alors que nous avions déjà eu deux cycles électoraux. On revient pratiquement à la case du départ avec des discussions, des partages de pouvoir et des contestations des personnalités. Or, en termes de contestation des personnalités, à qui profite alors ce flou et cette crise, si jamais elle pourrait perdurer dans ces sens?
Voilà pourquoi, aujourd'hui, comme j'ai déjà appuyé l'avis de ceux qui estiment que nous faisons encore la case, nous revenons à la case de départ. On a déjà eu des propositions des 1+3, je ne veux pas en revenir. Mais actuellement, moi, je pense que comme la majorité, parce que c'était dans la responsabilité de la majorité d'organiser les élections au mois de septembre de l'année passée. Si les élections devraient être organisées, il n'y aurait pas tout ce problème. Mais malheureusement, l'intention manifeste de respecter cette constitution n'existe pas, permettez qu'on puisse le dire. Voilà pourquoi le seul moyen de sauver et de faire respecter la constitution, c'est tout simplement des pressions. Donc la population, comme je dis, une partie de l'opposition qui se trouve à l'extérieur, ainsi que la société civile, notamment les confessions religieuses, je vois ici la commission justice et paix de l'église catholique, pour essayer de fédérer et avec des manifestations pacifiques pour revenir. Tenez, Pierrot, j'étais en train de dire que le CENCO aujourd'hui, la mission était, comme vous avez dit au début de l'émission, il fallait notamment faire des rapports, de l'évaluation d'une manière régulière. Mais aujourd'hui, on vient d'installer cette structure 7 mois après. Vous allez me dire qu'il va faire quel type d'évaluation. Il y avait, entre autres, au niveau de chapitre 4, n'est-ce pas, de l'accord, que lorsque le délai ne devrait pas être respecté, le CENCO avec le gouvernement et la CENI devraient se retrouver pour prolonger. Mais on a vu déjà le président de la CENI déjà dévoncer les pauvres, c'est CENCO qui devrait jouer ce rôle. Le président a dit qu'il ne sera plus possible. Donc on estime aujourd'hui qu'on a déjà vidé, n'est-ce pas, le CENCO de son existence. Mm-hmm. Voilà pour dire la fin, pour chuter. J'appelle tous les gens de bonne foi qui se trouvent même au niveau de la majorité. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ce pays. Parce que nous, les jeunes, nous n'avons que le Congo. Nous n'avons pas deux nationalités. Nous n'avons pas une seconde patrie. Alors si aujourd'hui le Congo sombre encore dans le désastre, on va encore perdre des gens et le pays risque de retourner. S'il y a des gens qui aiment encore ce pays, que ce soit au niveau de la majorité, que ce soit au niveau de l'opposition, ils doivent revenir à la Constitution.
Merci.
Au lieu de continuer d'aller des dialogues en dialogue. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Adrien. C'est un appel pathétique, que ce soit au niveau de la majorité, au niveau de l'opposition, de revenir à la Constitution. C'est le seul socle pour sauver ce pays qui n'est qu'un bien, que vous avez et vous n'avez pas une autre patrie. Merci beaucoup pour votre intervention. Je crois bien que c'est Lucien qui est avec nous maintenant de Lubumbashi. Lucien, bonjour.
Bonjour, monsieur Théro, vous êtes bien?
Voilà, on se porte bien, mais il y a un vent qui fouette votre téléphone. Alors, vous avez suivi les uns et les autres, Lucien. Si vous pouvez vous éloigner un tout petit peu des bruits ou bien vous mettre en contre-vent hein, pour permettre à ce que nous puissions communiquer sans beaucoup de difficultés. On vous écoute, Lucien.
Là, ça va maintenant?
Et c'est très bien, on peut évoluer comme ça.
Ok, je disais ceci, hein. Moi, je crois que c'est la nomination de monsieur Olengankoy à la tête du CENCO, c'est quelque chose qui ne va rien emporter dans ce pays. Moi, je trouve que ça ne va rien emporter dans ce pays. Pourquoi? J'estime que la majorité présidentielle n'a pas vraiment envie d'organiser les élections. S'ils avaient cette volonté, ils devraient déjà le faire depuis l'année passée. Nous étions avec M. Badibanga comme étant Premier ministre. Après, on a changé M. Badibanga, là, c'est maintenant M. Bruno Tshibala. Qu'est-ce qui change encore? Rien. Là, c'est pour vous dire que la majorité présidentielle n'a pas vraiment envie de quitter le pouvoir, vraiment. Ils n'ont pas vraiment cette volonté de quitter le pouvoir, même s'ils sont ces mandats.
Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Lucien. Et là, on dirait c'est un avion qui décolle. Hein, là où vous êtes, vous estimez que c'est un problème de volonté. Et pour vous, vous estimez qu'on a eu le Premier ministre Sami Badibanga, aujourd'hui le Premier ministre Bino Tshibala, que ce soit la nomination du président du CNSA, cela ne va pas résoudre le problème s'il n'y a pas la volonté de pouvoir organiser les élections et quitter le pouvoir. Merci beaucoup. Nous retournons ici à Kinshasa. On est avec vous, ingénieur Valérie. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à toute l'équipe, merci pour la parole.
On vous écoute.
Ok, merci. La nomination de M. Joseph Lengankoy est une coup de pédalo. En principe, c'est une nomination qui appelle de ma part les observations ci-après. Premièrement, c'est l'échec de pourparler de la CELCO. Deuxièmement, c'est déjà le départ en retraite de tous les dissidents du Rassemblement. Se sont adhérés, disons, qui sont partis adhérer à cette vague. Pourquoi je le dis? D'abord, je commence par le chef du dialogue. Vous savez, Joseph Olengankoy vient d'être nommé après modification de l'arrangement particulier. C'est-à-dire, là, on tombe dans une tricherie qu'on ne se voile pas la face. Je prends un exemple d'une école. Lorsqu'un jury a déjà délibéré un enfant, même le préfet chef d'établissement n'a pas qualité de modifier la décision du jury. Mais lorsque on avait déjà mis fin pour parler à la CENCO, l'arrangement était déjà ficelé. Il n'appartenait pas à un groupe des opposants pour aller comploter avec la majorité, se retrouver quelque part, commencer à modifier le mode de destination. Non, du président du CENSA. Ça, c'est de un. De deux, même lorsque la majorité demandait trois noms, elle demandait trois noms au rassemblement et non à toute l'opposition dans sa diversité. Mais on remarquera cette fois-là qu'ils vont évoluer encore dans leurs demandes. Ça sera trois noms en dehors même du rassemblement. Et Vital Kamerhe et R. Bazaïba n'ayant pas compris le jeu, ils les ont glissés. Et voilà qu'aujourd'hui, chacun commence à chercher à tirer l'épingle de son jeu. Mais j'espère que le peuple est en train de voir toutes les aventures politiques que certains politiques sont en train de nous offrir. Alors, pourquoi je dis que c'est un départ en retraite? Vous savez, aujourd'hui, tous ceux qui ont été répertoriés comme dissidents du rassemblement et qui ont créé ce mouvement-là, au fur et à mesure que les jours passent, il y a un adage politique qui dit « la révolution bouffe ses premiers fils ». Vous savez que dans la Bible, je prends un exemple. À l'époque de Jésus-Christ, il y avait des groupes qui ne s'entendaient pas. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les hérodiens, les zélotes. Mais quand il fallait faire périr Jésus-Christ, tout le monde faisait bloc ensemble. C'est ce que tous ces dissidents nous ont montré, ainsi qu'avec une frange de l'opposition. Quand il a été question que Étienne Tshisekedi, le président Étienne Tshisekedi de Rez-Mémoire, puisse occuper le CENSA et que les rassemblements soient donnés à Félix, vous avez suivi le soulèvement de la part de toutes sortes d'opposants. Au niveau de l'INC, au niveau du MLC, mais dès que le rassemblement s'est disloqué un peu, il y a eu des dissidents, disons pas s'est disloqué, dès qu'il y a eu certains dissidents qui sont sortis du rassemblement, cette guerre froide a pris fin. Et le MLC est allé chercher une candidature là-bas, l'INC même. C'est vous dire que nous assistons déjà à un départ en retraite.
Alors, mais au-delà de tout, parce qu'il y a la question centrale, c'est au niveau du processus électoral. Joseph Olengankoy a été désigné. Alors, par quel procédé, mécanisme, on peut arriver à faire évoluer le processus électoral, ingénieur Valérie?
Oui, il a un rapport à ce qu'il vient de dire. Étant donné qu'il n'est pas crédible, il n'a pas ses poids-là devant Nanga. Il n'aura pas aussi ses poids-là devant la majorité. D'autant plus que c'est quelqu'un qui est fabriqué par la majorité. Hein? Donc vous comprenez. Alors que ces postes exigeaient quelqu'un de caractère, quelqu'un d'indépendance d'esprit. Mais il n'en aura pas, par conséquent, on ne s'attend à rien. Et alors, nous devons arrêter de parler dialogue pour aller directement sur les élections. Tout.
Merci. Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Alain Bolodua, que nous devions avoir en ligne tout à l'heure. On a des petits soucis pour les joindre, s'il pourrait peut-être nous communiquer une autre ligne. Il dit ceci, son choix est en cohérence avec les restes du processus des arrangements particuliers. Par ailleurs, je ne vois pas son rôle dans la tenue des élections dès lors qu'il revient à la seule CENI d'organiser les élections. Le CENSA peut donner la vie politique et non décider sur l'opérationnalisation des élections car l'indépendance de la CENI est consacrée dans la Constitution. 081-890-6390, 081-890-6390-09-97-06-49-69. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine Droits et devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Joseph Olenga, coordinateur du rassemblement Elka Savoubou, a été désigné samedi 21 juillet président du Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre. Certains observateurs estiment que cette désignation est un pas dans l'avancement du processus électoral selon l'accord du 31 décembre dernier. Une autre opinion pense plutôt qu'elle ne résout pas le problème de la crise politique et ne pourra pas faciliter la tenue des élections conformément à l'accord du 31 décembre. Qu'en pensez-vous? Et sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, Alain Évariste Bassanga, qui est en Bandaka, estime pour lui qu'étant donné que la procédure de nomination viole l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre, la résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU, cette nomination ne nous assure pas l'organisation du scrutin présidentiel pour simple raison qu'elle est contestée par des grandes figures de l'opposition, laquelle contestation qui est la majorité présidentielle trouve des arguments en vue de convocation qui risque d'envoyer la majorité présidentielle à convoquer un troisième dialogue tel qu'on a connu avec la nomination du premier ministre après l'accord de la cité de l'OIA. On a conduit au deuxième dialogue avec la CENCO, la nomination du premier ministre Bruno Tshibala, et là nous risquons d'aller de report en report dès lors qu'un communicateur de la majorité avait dit que cette nomination était considérée comme provisoire. Nous restons ici à Kinshasa avec vous, Félicien Kalala. Merci de nous avoir contacté. Bonjour, Félicien.
Bonjour, monsieur. Alors, je salue l'invité sur le plateau ainsi que tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, on vous a vu sur la page Facebook des paroles aux auditeurs tout à l'heure. On vous écoute, Félicien Kalala.
Oui, d'entrée de jeu, mon affirmation est motivée par des sorties médiatiques identiques de deux personnes différentes. Pour les devoirs de mémoire, un certain Ozigier, le président de la CENI au siège de la francophonie et de l'OIF, a dit qu'il est impossible d'organiser les élections le 31 décembre 2017, comme prévu par l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous et moi, nous étions surpris de voir comment les voix s'étaient levées tant sur le plan national qu'international, pour dire que Corneille Nangaï est en connivence avec la majorité présidentielle. Deux semaines après, lors d'une matinée politique avec sa base, le président de FONIP, je cite, Joseph Olenanko, que je salue en passant, dit que les élections n'auront plus lieu en 2017, comme prévu par l'accord de la Saint-Sylvestre, mais plutôt à une date d'aille sur notre enquête. Cette affirmation était contestée presque par toute sa base, immédiatement même annoncée. Alors, monsieur le journaliste, partant de la conception du CNSA par les différents délégués au dialogue du centre interdiocésain. C'est pour que cette structure commence à faire pression sur les institutions étatiques, notamment la CENI, les parlements, les gouvernements, pour que les élections soient organisées comme voulu par tout le monde, en évitant certaines pressions populaires, notamment les marches et autres, sur le gouvernement afin qu'on organise les élections. Alors, une fois qu'on introduit au sein de CELSA une personne qui parle un langage proche de Corneille Nangaa, qui est jugé récemment comme étant proche de la majorité présidentielle, vous ne verrez pas que cela constituerait plutôt une carcane contre la démocratie et que le peuple risque encore une fois de commencer à faire des manifestations populaires pour exiger la tenue des élections. Et cela d'ailleurs constituera une double confrontation, parce que c'est la CENI et les CENSA qui seront pressionnés par le peuple pour que les élections soient organisées au moment voulu par tout le monde. C'est un peu ça, ce qui motivait un peu ma...
Votre réaction. Merci, merci beaucoup, Félicien Kalala. Et pour vous, la peur, c'est de voir que le CENSA puisse être sous la pression de populaire et aussi la CENI puisse être sous la pression populaire. C'est ça votre inquiétude. Dès lors qu'il est prise des positions de uns et des autres autour de la tenue de possible des élections cette année, c'est là risque d'apporter toutes ces pressions, non seulement sur la CENI, mais aussi sur les présidents du CENSA. On reste à Kinshasa. Junior, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Junior.
Je suis à Kinshasa.
Oui, on vous écoute.
J'allais dire, mais que fait le CENSA? Le CENSA est là pour contrôler, c'est pour la suivi de l'accord de Saint-Sylvestre. Apparemment, c'est tout le monde qui s'oppose à la désignation de monsieur Le Ngankoy. Mais que fait la CENI? La CENI nous dit qu'il n'y aura pas les élections. Pourquoi il n'y aura pas des élections normalement? Parce qu'il n'y a pas une comité qui est là uniquement pour suivre les activités de la CENI. La CENI nous dira qu'il n'y a pas des élections, c'est tout le monde qui parle à la radio, à la télévision. Non, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Normalement, moi, je salue cette désignation pour permettre à la CENI d'organiser les élections. C'est possible d'organiser les élections en décembre 2017. Mais qui suit ce que fait la CENI? Et quand la CENI nous dira, il n'y a pas de moyens, mais comment il n'y a pas de moyens? Et les autres nous disent, non, c'est le gouvernement, l'ANP n'a pas la volonté d'organiser les élections. Mais ce n'est pas l'ANP qui organise les élections, c'est la CENI. La CENSA est là pour suivre tous les accords qui se sont convenus au Saint-Sylvestre. Apparemment, c'est M. Le Ngankoy qui a le problème. Mais qui veut être là? Tantôt, c'était nous. Quand on dit non, c'était nous, mais tout le monde dit non, c'est pas Pierre, non, mais peuple. Finalement, je crois que c'est une bonne décision. M. Le Ngankoy doit travailler pour suivre et contrôler tout ce que fait la CENI et tous ces accords qui ont été signés au Saint-Sylvestre doivent être contrôlés. Ce n'est pas la MP qui organise les élections, mais c'est la CENI qui organise les élections. C'est M. Corneille qui doit être suivi. Il est là, il doit nous dire comment et pourquoi il n'y aura pas les élections cette année. Et qui va les contrôler? C'est la CENSA. Et si tout le monde dit non, c'est M. Le Ngankoy, ça profite à qui? La population souffre. Pas les élections, les opposants nous diront allez sur la rue, ne payez pas les factures, faites ça. Ça ne profite pas à la population.
Merci beaucoup. Merci. Merci, Junior. Vous estimez que ça ne profite pas à la population. Il faut laisser Joseph Le Ngankoy y travailler. Alors, et là, vous avez posé un problème. Est-ce que c'est un problème des personnes? Parce qu'on se rappellera une fois quand il y a eu la proposition au niveau du rassemblement de l'IMETE, que ce soit Pierre Lumbi, il y a des voix qui se sont levées pour dire qu'on était contre. Il fallait un consensus. Et quand on a désigné Le Ngankoy, des voix s'élèvent encore contre. Alors, vous estimez qu'est-ce que le problème? C'est un problème d'individu ou un problème de la structure? Il faut laisser la structure travailler. aider à accomplir sa mission de pouvoir surveiller la CENI. Sinon, ça sera difficile de pouvoir contrôler la CENI selon l'accord et savoir comment elle conduit les opérations électorales. Merci beaucoup, Junior. Alain Bolodua, merci d'être avec nous. Vous êtes le président fédéral du parti Panader pour la province de l'Équateur, je crois bien, parti membre de la majorité présidentielle. Alain Bolodua, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
Et je lisais tout à l'heure votre réaction sur la page Facebook. Vous avez dit son choix est cohérent avec le reste du processus des arrangements particuliers, mais il se pose un problème en ce qui concerne sa relation avec les opérations électorales.
Effectivement, je viens d'ailleurs confirmer ce que j'ai dit. Moi, je considère que nous nous posons de mauvaises questions au vrai problème. Il y a certaines voix, certaines personnes qui pensent que M. Lingankho ne répond pas aux critères. Mais malheureusement, ces critères ne sont ni dans l'accord, encore moins dans l'arrangement particulier. M. Lingankho a été choisi sur base d'un arrangement particulier entre les partis. C'est vrai que le fondement, c'est l'accord du 31 décembre, mais ce qui a conduit M. Lingankho, c'est l'arrangement particulier. Dans l'arrangement particulier, on a dit clairement que et ça serait une personnalité choisie de manière consensuelle. Sur le membre, le 28 membres qui vont constituer le bureau et la plénière, il y a eu des voix qui sont levées en faveur de M. Lingankho. Si nous prenons un terme de son histoire politique, M. Lingankho a été le délégué de l'opposition dans la conférence nationale souveraine pour le compte de l'opposition. M. Lingankho a été le chargé de mission de Tshisekedi quand il était encore dans l'opposition dès l'entrée de l'ASBEL. M. Lingankho a été délégué de l'opposition au niveau de la conférence du dialogue intercongolais à Sand City. M. Lingankho a été choisi ministre sur la liste de l'opposition pendant la transition. M. Lingankho a été élu membre du rassemblement alors qu'on cherchait à avoir une plateforme de l'opposition. Il a été parmi les membres majeurs, les éléments majeurs de la même opposition. M. Lingankho est présentement membre du rassemblement et choisi par ses pairs. Donc moi, j'estime de mon point de vue qu'il répond sur le plan politique de tout ce que l'on peut dire. Il répond effectivement au profil que l'on pouvait avoir en tant que président. Il sème ça pour le compte du rassemblement. En ce qui concerne sa formation, M. Lingankho a été formé à l'étranger, mais ici à Kinshasa, nous l'avons suivi à la télévision, il a décroché son diplôme de licence à l'université panafricaine. Il a été ministre au transport. Ce qui veut dire, sur le plan technique, il répond aussi aux critères. Mais la question n'est pas en termes de la personne de Joseph Lingankho. La question réside plutôt en termes du fonctionnement et du cadre organico-fonctionnel du CENSA. Si on dit que c'est M. Lingankho qui doit décider en dernier ressort, là je m'inscrirai en faux. Mais si on dit que les décisions doivent se prendre de manière consensuelle, ce qui veut dire qu'il aura un pouvoir limité et ses compétences, bien qu'il peut avoir des faiblesses, mais ces compétences seront certainement comblées par le force des autres. Donc le débat n'est pas à ce niveau. Un autre élément que je voudrais soulever, c'est d'abord par rapport à la mission dévolue au CENSA. Parce que généralement, lorsque nous faisons nos analyses, nous ne tenons pas compte des paramètres qui entourent le fait que nous analysons. Le CENSA n'est pas une suprastructure. Le CENSA n'est justement qu'une structure d'appoint qui vient compléter les actions et du gouvernement et de la CENI en ce qui concerne les orientations politiques. Le CENSA n'est pas l'organe chargé d'organiser les élections. Le CENSA n'est pas une structure supérieure à la CENI. La CENI n'aura pas à recevoir des injonctions du CENSA. Mais le CENSA vient donner la dimension politique qui manque à la CENI. C'est-à-dire que ce sont deux structures qui doivent travailler en collaboration. Et ce n'est pas le CENSA qui est supérieur à la CENI. Alors, si nous prenons tous ces éléments mis ensemble, j'estime de mon point de vue que nous devons plutôt nous poser la meilleure des questions, la vraie question. Sommes-nous en mesure d'organiser les élections en 2017? J'ai dit non. Alors, comme nous ne serons pas en mesure d'organiser les élections en 2017, que devons-nous faire? On doit avoir le point de vue de toute la classe politique pour qu'ensemble nous arrivions à trouver la solution à la problématique qui a conduit au dialogue. C'est-à-dire un calendrier consensuel. C'est ça le problème que nous devons nous poser.
Oui, Alain, s'il vous plaît, si on doit, rappelons-nous quand même que cette question a été évoquée en 2015, fin 2015, quand nous avons eu plusieurs débats dans Parole aux auditeurs. On s'était posé cette question de savoir, sommes-nous à mesure d'aller aux élections en 2016? La conclusion était que c'était pas possible, il fallait un dialogue, c'est comme ça qu'on a eu tous ces dialogues, dans l'idée qu'on ne peut pas aller au-delà de 2017, qu'on le fasse en 2017. Alors, à vous écouter, c'est comme s'il faut encore revenir pour se dire, mais est-ce qu'on est en mesure d'aller aux élections en 2017? On dit non, on n'est plus en mesure d'aller en 2017. Déjà, on avait fait des discussions pour dire qu'on n'était pas en mesure d'y aller en 2016. Et maintenant, on doit faire des discussions parce qu'on n'est pas en mesure d'y aller en 2017. Alain, pensez-vous qu'un jour, qu'on soit en mesure, effectivement, de déterminer qu'en ce moment, en cette année, on peut aller aux élections?
Bon, moi, j'estime que la classe politique ou les signataires ont dupé la population. Parce que si vous prenez en termes de la problématique de départ, la question de départ n'a pas trouvé de solution. On est parti au dialogue pour se poser une seule question sur la tenue des élections. Mais malheureusement, nous trouvons et dans l'accord et dans l'arrangement particulier, on n'a pas résolu le problème. On a plutôt créé un problème en termes de choix des individus. La question qui devrait se poser, c'était en termes d'un calendrier consensuel. Ni l'accord, ni l'arrangement particulier, on n'a pas trouvé ce calendrier. Et pourtant, le calendrier devait être l'annexe même, le puissantre de leur réflexion. Ils ont passé outre, et aujourd'hui, nous sommes rattrapés par la même problématique. Si vous prenez le chapitre 4.2 de l'accord, on a fait mention de 31 décembre 2017. Mais malheureusement, au lieu de se limiter au point, ils ont ajouté un adverbe toutefois. Or, cet adverbe toutefois, ça crée un glissement dans le glissement. Alors que si on nous avait dit 31 décembre 2017, point, cela allait sous-entendre que la date du toit était le 31 décembre.
Mmh. Alors, Alain, maintenant, avant d'écouter un bout de Moutombo,
oui. Opérationnalisation du processus
électoral. Mais alors, toutes ces questions. Oui, oui. Selon l'accord, Alain, toutes ces questions devraient faire objet des discussions entre le CENSA, le gouvernement, la CENI et tous les autres partenaires pour dire, voilà, on fait l'évaluation. D'ailleurs, l'accord prévoyait qu'il y ait l'évaluation chaque 2 mois et que le président du le CENSA soit saisi. Et en ce moment, le CENSA continue à mener des discussions avec la CENI, avec les gouvernements sur toutes les possibilités d'opérationnalisation comme vous évoquez le cas. Mais dès lors que la mise en place du CENSA a pris du retard, la contestation au niveau de la nomination des personnalités, comment alors on peut arriver à l'opérationnalisation elle-même des opérations et de l'évaluation de ce qui doit être fait?
Bon, maintenant là, ça soulève le problème de la qualité de la classe politique, parce que moi j'aurais souhaité que la classe politique puisse transcender ses faiblesses, ses limites, pour que nous puissions résoudre le problème de manière structurelle. Parce qu'il n'y a pas que, en termes de la tenue des élections, mais aussi la qualité des élections. Comme je l'ai toujours dit, les élections n'ont pas été instituées pour résoudre le problème du délai, mais plutôt pour résoudre la crise de la légitimité du pouvoir. Cette question n'est pas encore abordée. Aujourd'hui, on conteste la CENI. Aujourd'hui, on vide la substance même de la Cour constitutionnelle. Après les élections, serons-nous en mesure de nous regarder droit dans les yeux et dire que non, effectivement, nous avons levé des options politiques courageuses et rationnelles? Parce que lorsqu'on néglige la qualité des élections, ça sous-entend qu'il y a une volonté manifeste à ne pas mieux faire les choses. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait être fait, de mon point de vue, ceux qui sont du rassemblement est le Moïse Katumbi. Doit faire en sorte qu'il ne soit pas l'obstacle pour justifier le glissement dans le glissement. Ceux qui se sont donné la mission d'organiser les élections en excluant les autres ou en acceptant l'auto-exclusion des autres doivent arriver à prouver à la face du monde qu'ils ont été suffisamment responsables pour que le pays ne plonge plus dans le chaos, comme l'a dit mon prédécesseur. La question n'est pas en termes de la classe politique. Parce que si on a institué la politique ou on a créé l'État, ce n'est pas pour résoudre le problème de la classe politique, mais plutôt pour résoudre le problème de la population. Voilà pourquoi moi j'insiste sur ce point-là. On
Voilà,
nous devons arriver à transcender nos faiblesses.
Voilà. Alain, on va revenir à vous tout à l'heure. C'est vraiment assez intéressant votre intervention. Vous estimez que maintenant c'est une question des responsabilités, que ça soit ceux qui contestent la nomination de Joseph Olengankoy qui ne soit pas considéré comme auteur sous entre guillemets du glissement, ou ceux qui ont accepté de prendre la responsabilité de conduire les opérations, qu'ils puissent aussi prouver à la face du monde qu'ils ont été accusés à tort. On revient à vous. On écoute Mbuyi Mutombo qui nous appelle de Kananga. Merci d'être avec nous sur les antennes, Monsieur Mbuyi. Bonjour. Monsieur Mbuyi, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, des petits soucis des lignes avec notre compatriote qui nous a appelé tout à l'heure de Kananga, au Kasaï central. Joseph Ngondo, depuis Kikwit, dit ceci sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Ce qui a été fait le week-end dernier en procédant à la nomination de Monsieur Joseph Olengankoy au poste du président du CENSA n'est pas conforme à l'accord des Saint-Sylvestre. En outre, on devrait quand même penser, bien sûr, en termes de consensus. Pourriez-vous penser aujourd'hui que le CENSA soit capable, dans la configuration actuelle, de faire pression sur la CENI, ou bien de faire pression sur le gouvernement, ou même de juger d'une manière claire et responsable le travail fait en termes d'évaluation? Timothée Mukini de Kananga. Cette désignation biaisée, non conforme aux prescrits du fameux accord du président des CENSA, est encore une fois un mauvais départ pour le CENSA lui-même, avec les degrés de contestation. Ça va déjà être un mauvais départ. Et dans ces conditions, ça sera exactement difficile qu'on puisse arriver vraiment à sortir du bourbier électoral dans lequel nous sommes en train de nous enfoncer petit à petit. Simon, vous êtes à Matadi, dans la province du Congo central. Bonjour Simon. Simon, vous êtes avec nous, bonjour.
Société civile congolaise.
Voilà, on vous écoute.
Oui, en fait, les problèmes en philosophie, on dit ceci. Lorsque les prémices sont fausses, même la conclusion sera fausse aussi. Ici, nous parlons de la nation. Nous devons être sérieux. Lorsque nous avons mal commencé, il faut que les gens reconnaissent que nous avons très mal commencé. Le départ a été déjà fauché parce que vous savez que le rassemblement qui s'est formé à Javal, il y a eu un esprit. Ils ont dit que les rassemblements sont des plateformes et non des individus. Et ils ont déposé les documents de leur constitution dans toutes les institutions de la République officielle. Et c'est ce qui était fait. L'accord a été signé. Ils ont dit, voilà ce que nous devons faire. Le premier ministre est présenté par l'opposition bar rassemblement. Et puis le président de CENSA et le président du comité des sages du rassemblement et le président de CENSA. Et c'est ça le départ. Je pense que le président de la République ou tous ceux qui conseillent le président de la République devraient le faire en toute responsabilité de la République. Que le président ne puise pas dans les précaires. Parce que tous ceux que le premier ministre, il est précaire parce qu'on a puisé dans la dissidence. Mais la dissidence vient de la dissidence. Donc ils n'ont pas été dans le rassaut de l'esprit de Javal. Vous prenez déjà le départ, nous trouvons que nous allons avec des erreurs comme ça. Il est évident que les gens commencent à contester. Parce que si le président puise dans ce qui est durable, parce que nous parlons nation, nous avons un devoir d'avenir. Donc les actes que nous posons aujourd'hui, mais faisons en sorte que ces actes ne nous rejoignent pas demain. Parce que le président de la République, s'il puise dans ce qui peut être durable, et je vous dis, si le président de la République avait suivi l'esprit de l'accord, tel que c'est écrit, tel que le rassemblement, qui est constitué de plateformes, parce que l'autre là n'est pas un rassemblement, selon l'esprit de Javal, puisque ce sont des individus, et qu'il aurait puisé, s'il puisait même aujourd'hui, je vous rassure, c'est le plus beau cadeau que le président de la République offrirait à tous les Congolais confondus, même nous de la société civile. Et j'estime, à mon humble avis, si jamais même on reportait la date des élections, lorsqu'on a puisé dans les durables, ça créerait moins de problèmes. Il n'y aurait pas de, de tensions comme ça fait déjà la louche maintenant qui est en train de mobiliser à Kinshasa pour le 31 juillet. Vous voyez déjà, tout ça, ce sont des esprits.
Alors, Simon, si on regarde aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne dans nos plateformes, hein, dans les partis politiques dans notre pays, depuis la désignation des membres ou des délégués pour les concertations nationales, on a vu comment est-ce que les uns et les autres ont été contestés. C'est une façon, c'est une pratique dans notre culture politique de contester les uns et les autres. Est-ce que le problème du rassemblement Kidjenval, El Kassavubu, El Limité, est-ce que c'est pas un problème de crédibilité au niveau des acteurs politiques eux-mêmes qui est aussi à un certain moment, on peut dire entre guillemets, qui met aussi en difficulté d'autres partenaires pour savoir avec qui traiter et de quelle manière on peut évoluer pour résoudre le problème. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment les deux rassemblements puissent se mettre d'accord pour avoir une seule vision et de même animateur aujourd'hui.
Oui, monsieur Gère, j'ai parlé du durable et du précaire. Donc, lorsque nous voulons les durables, nous devons aller sur ceux qui sur les fondamentaux. Les fondamentaux du Jean-Val, même le président de la République et le gouvernement les connaissent. Ce qui peut être des dissidents là, on aura des difficultés pour bien expliquer ça. Mais si nous sommes dans les durables, dans les fondamentaux, parce que pour les fondamentaux, c'est l'esprit là de Jean-Val. Ces gens-là, qui ont eu, qui ont conduit, qui étaient des ténors au niveau de l'accord de Saint-Sylvestre, ceux qui avaient la mission, ceux qui partaient, qui avaient la charge parfois de conduire des missions. Mm-hmm. Ce sont ces gens-là qui se sont affichés.
Merci,
alors,
merci
quand
beaucoup.
Vous prenez aujourd'hui les individus.
Merci beaucoup, Simon. Merci beaucoup, Simon, parce que là, on doit permettre aussi à notre ami Pacifique de Lubumbashi de pouvoir réagir alors qu'il nous reste que deux minutes pratiquement et Alain Bolo du Japon pour placer un mot. Pacifique, merci. Vous avez suivi les uns et les autres. La question tourne autour de la nomination, des contestations, mais de quelle manière on peut s'en sortir pour régler la crise un peu rapidement, Pacifique. Bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs qui me suivent pendant ce moment. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Je ne suis pas tout à fait d'accord, peut-être en partie, avec Alain Bolo, dans tout ce qu'il venait de vous démontrer là-dessus. Mais je trouve que c'est la supercherie politique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Olengako lui-même, dans sa base, quand il a dit qu'il n'y aura pas d'élections cette année, on l'a contesté. Tout de suite, là, dans sa propre base. Et il n'avait pas d'autres arguments à pouvoir donner à sa base. Mais pourquoi aujourd'hui, la société cherche toujours à aller à contre-courant? Je vous dis que qu'il monte, qu'il vente ou qu'il neige, on reviendra tout simplement à prendre Félix Tshisekedi comme Premier ministre, Pierre Lumumba et tout ça.
Voilà.
Ce n'est pas possible.
Et ça veut dire que vous pensez qu'on pourra revenir à la case du départ. Merci. Merci beaucoup. Dommage, Pacifique, on ne sera pas allé plus loin. Alain Bolo, en une minute, vous avez suivi Pacifique qui estime qu'il faut éviter dans tous ces débats de tomber dans la supercherie politique. Et là, peut-être en 50 secondes, Alain Bolo, si vous êtes encore avec nous.
Oui, j'estime que l'analyse doit être complexe. Parce que lorsqu'il parle de dissident, la personne qui a été proposée par le rassemblement El Moïse Katoumbi, c'est aussi un dissident de la majorité. Olengako n'est pas dissident, Olengako est connu comme opposant. Il n'a jamais été membre de la majorité, alors que Pierre Lumbi est encore cabiniste, bien qu'il soit dans l'opposition. Donc moi, j'estime de mon point de vue,
merci,
on doit arriver à quitter le niveau de parler des individus.
Merci.
Parlons de nous, de la République et de l'État.
Ok, merci beaucoup Alain Bolo, merci. 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 Merci beaucoup Alain Bolodua, merci à Pacifique, merci. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets, mais le débat s'est poursuivi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. On se retrouve demain pour un autre numéro de Paroles aux Auditeurs. Merci à Sylvain Matondou qui était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Marcel Gombo, qui était assisté par Berry Franklin Luchaka et Pierrot Elamegi. Vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujangwe. On se retrouve demain, comme je le disais tout à l'heure, pour un autre numéro, mais l'émission est sur www.radiocapi.net. Au revoir.